France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
À la Libération 1944-1945, le contraste est saisissant entre le sentiment de joie qui éclate et l'abattement face aux horreurs de la guerre, entre le désir de fête et la découverte de l'ampleur du phénomène génocidaire. Les deux ne s'opposent pas, ils vont de pair avec la volonté de fonder un monde nouveau. Et dans cette construction, pour ne pas dire reconstruction, les arts sont en ébullition.
L'art, il déteste être connu et salué par son nom. Il se sauve aussitôt.
Connaissez-vous le quartier de Saint-Germain-des-Prés ?
Saint-Germain-des-Prés ?
Comme je voulais faire un tableau tout de même, j'ai pas du macaroni, j'ai pris des cure-dents parce que je trouvais que ça allait aussi bien que les couleurs.
Et vous avez fait quoi avec ces cure-dents et ces macaronis ?
Ça représente ce qu'on appelle une nature morte, n'est-ce pas ? J'ai rendu la plus vivante possible en employant des macaronis et des cure-dents.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
Fanny Drujon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire de l'art à l'Université de Tours. Vous êtes co-directrice avec Alain Bonnet d'un ouvrage intitulé « Passage à Paris, artiste étranger à Paris de la fin du 19e siècle à nos jours ». Et ça permet déjà d'évoquer que pendant la période qui précède ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la libération, c'est la guerre. Mais la guerre, ça ne signifie pas que l'activité culturelle s'arrête. C'est peut-être important déjà de le rappeler, hein. Pendant l'occupation, les peintres continuent de peindre. Il y a toujours des cinéastes qui font des films et il y a toujours du spectacle.
Oui, il y a effectivement plusieurs profils en fait, plusieurs tranches de vie qui se produisent. C'est-à-dire que vous avez les artistes qui vont partir, hein, qui vont s'exiler. Vieira da Silva qui est à Paris va partir d'abord au Portugal puis au Brésil. D'autres qui restent selon avec plus ou moins de facilité, certaines expositions vont aussi beaucoup compter. C'est-à-dire pendant l'occupation, vous allez avoir l'association Jeune France et notamment l'exposition des peintres de tradition française qui rassemble des artistes qui vont être aussi le devant de la scène après-guerre, des artistes comme Jean Bazaine, notamment Alfred Manessier, et qui vont développer une des tendances abstraites après la Seconde Guerre mondiale.
Par contre, il n'y a pas d'étrangers tellement qu'ils viennent à Paris pendant l'occupation. Ça, c'est aussi quelque chose de spécifique. Enfin, si ce sont des étrangers, en tout cas, ce ne sont pas des artistes qui viennent des États-Unis, par exemple, ou du monde anglo-saxon.
Disons, pour certains artistes, la situation a été très difficile, effectivement. C'est-à-dire, vous avez le cas de le parcours de Hans Hartung, par exemple, qui, lui, va s'engager dans la Légion, qui va connaître une période vraiment particulièrement difficile et qui a une pratique avant-guerre. Qui poursuit dans la veine abstraite après-guerre. Vous avez les parcours de Vols aussi, qui va être emprisonné, qui va aller au camp des Milles. C'est vraiment des parcours de vie très très différents.
Et puis il y a un regard porté par le pouvoir occupant, et puis dès lors par le régime du maréchal Pétain sur les arts, parce que ça aussi, ça a une incidence sur la manière de produire des œuvres. Un artiste, il est là pour produire, mais il n'est pas là pour produire uniquement pour lui seul. À un moment, il faut qu'il expose et qu'il vende et qu'il vive. Y a certaines formes d'art qui ne sont pas mises en avant, pour le dire autrement, qui sont même combattues.
Oui, il y a aussi des incompréhensions. Ça, c'est tout particulièrement une période, un moment qui a été très bien analysé par Laurence Bertrand d'Orléac, qui parle notamment de l'association Jeune France, qui n'a pas pu exister longtemps, mais dont le principe était de redonner un dynamisme et même de s'opposer en fait à l'occupant. Mais ça n'a pas duré.
Mais pour l'abstraction, par exemple, que se passe-t-il pendant la guerre ? Parce que quand on parle d'abstraction, on pense à Kandinsky, donc on est avant la guerre, hein, on a ce mouvement-là. Est-ce qu'on peut dire que la période de la guerre, ou en tout cas, dans le cas de la France, la période de l'occupation, c'est un moment d'arrêt de la production de ces artistes ?
Alors, c'est vraiment une question très, très intéressante et très importante pour selon la génération des artistes concernés. D'ailleurs, pendant, vous allez avoir une exposition Kandinsky qui va avoir lieu pendant cette période-là, qui ne va pas être évidemment d'une portée publique extrême, mais des choses se passent. La guerre, c'est le moment aussi. En 44, vous avez les Mondrian et Kandinsky qui meurent. Donc c'est un moment aussi particulièrement important, c'est-à-dire que les pionniers de l'abstraction disparaissent. Milieu des années 30, vous aviez Malevitch qui était décédé. Après, les autres pionniers ne prennent plus spécialement part au débat. Mais à la Libération, en fait, vous pouvez par exemple, dans certains cas, avoir des ayants droit qui sont là, qui agissent et qui contribuent aussi à organiser des expositions ou à favoriser l'organisation d'expositions.
Avec, c'est vrai, ce phénomène de génération, et c'est important de le dire, Kandinsky décède en 1944, et puis il y en a d'autres. Pour l'abstraction, vous avez déjà cité un nom, Hans Hartung, qui est-il ?
Donc Hans Hartung, c'est un artiste donc, qui est allemand, qui va choisir, lui, de s'opposer justement au régime, qui va du coup s'engager dans la Légion. Donc, il y a un endroit fantastique qu'on peut découvrir actuellement, donc c'est la fondation Hartung Bergmann, qui se trouve dans le sud de la France. Et donc, c'est un artiste qui est aussi intéressant par rapport à Hartung, c'est qu'il a une pratique abstraite avant la guerre. Et au sortir du coup de la guerre, il paraît comme un père par certains artistes, c'est le père de l'abstraction en quelque sorte. D'autant que vous parliez d'isolement, hein, je repense à un échange que j'avais eu avec Serge Rezvani, donc qu'on connaît comme Cyrus Passac, donc l'écrivain, le parolier de chansons, mais qui a une carrière de peintre, et donc qui me disait que c'était assez drôle parce qu'il était tellement isolé pendant la guerre. Il avait l'impression, en fait, que l'abstraction était une création après. Et lorsqu'il s'est rendu compte, lorsqu'il a découvert que, il n'y a pas du tout, en fait. Il y a même des critiques. Michel Sofort organise une exposition après à la Libération autour des premiers maîtres de l'art abstrait. Et dans le catalogue, il écrit que c'est la question de l'abstraction date du début du XXe siècle, mais qu'en 1949, elle paraît aussi neuve qu'à l'époque, en fait, comme si ça réapparaissait.
Ah oui, on a un vrai renouveau là, on l'entend bien dans ce que vous nous expliquez, il y a comme une naissance à un moment donné, on parle de l'abstraction au début du XXe siècle, et cette période qui suit la guerre, c'est un vrai renouveau avec ce phénomène de génération, oui, début du XXe siècle jusqu'aux années 40, ça fait déjà 40 ans, nouvelle génération, et puis surtout, le monde a changé, Serge Reggiani, le chanteur...
Non, Rezvani.
Ah, c'est pour ça, parce que moi je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce que Reggiani a fait de la peinture,
Mais là, c'est Rezvani, en fait.
Alors, c'est qui ?
Serge Rezvani, donc c'est lui qu'on voit dans Jules et Jim, en fait, qui a écrit le parolier des chansons de Jeanne Moreau, et qui était peintre, en fait, et qui a été aussi très proche des Dominicains, dans une de ses œuvres est conservée chez les Dominicains actuellement. Et donc, il avait une... Il était très, c'était assez touchant en fait la façon dont il parlait de ce moment de naïveté en fait, d'extrême naïveté.
Et dans ce moment de naïveté, il est peut-être important de redéfinir les termes. Fanny Drujon, vous nous le dites, après la Seconde Guerre mondiale, il y a comme une renaissance de l'abstraction, mais ce mot-là, il est à redéfinir. On laisse la parole à Hans Hartung.
Oui, vous savez, le mot abstraction, c'est un mot inventé dans son temps, enfin, trouvé par Kandinsky. Et avec tout le respect pour la grande intelligence de Kandinsky, mais enfin, c'était pas justement le mot le mieux trouvé.
Est-ce que vous en avez un autre à proposer ?
Non. Non plus, je n'ai jamais réfléchi pour le remplacer. On a essayé, on a parlé de peinture objective, et on a parlé de peinture non figurative, on a parlé d'une peinture d'un lyrisme, tout ce que vous voudriez, des choses les plus incroyables, orphique, etc. Mais aucun mot n'était bon, aucun n'était meilleur que le fameux mot abstrait, qui justement ne colle pas complètement.
Voilà, bon. C'était pas mal. Fallait bien utiliser un mot. Fanny Drujon, comment, après la Seconde Guerre mondiale, un artiste reprend les pinceaux et s'inscrit dans une longue histoire. On l'entend ici, il se détache un peu de ce qui s'est passé, mais vous savez, il y a toujours cette idée qui revient sans cesse, il n'est pas possible de peindre ou de créer globalement après les horreurs de la guerre, après cette période dramatique, et au moment où ces peintres peignent, il y a la découverte, les horreurs génocidaires sont là, les images des camps arrivent. Est-ce que tout ça, ça s'imbrique dans leur réflexion autour de la création ?
Alors, il va y avoir beaucoup d'éléments qui doivent être pris en considération. Déjà, effectivement, le choc de cette découverte. Vous avez une déclaration de l'abstrait américain Barnett Newman, par exemple, qui explique qu'il faut repartir à zéro, comme si la peinture n'avait jamais existé. Vous avez des réactions les artistes restent interdits, en fait. Mais après, il y a aussi un autre élément qui va être important dans l'après-guerre, c'est la question de la question politique aussi. C'est-à-dire que l'abstraction ne devient pas évidemment très présente dans les débats, dans la presse, dans les expositions, mais il n'y a pas que l'abstraction. En revanche, il va y avoir des prises de position politiques, c'est-à-dire une figuration qui va être une représentation dans la figure humaine qui doit s'imposer. Vous allez avoir aussi, par rapport à des contextes de commande, la peur de certaines pratiques artistiques. Là, je pense notamment à la question du renouveau de l'art sacré, qui est aussi très très important en France après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, à choisir, est-ce que c'est mieux d'avoir dans une église une œuvre figurative, mais un petit peu déformée, ou d'avoir des lignes tranquilles, des contrastes colorés, donc parfois il va y avoir aussi, alors évidemment là je simplifie, c'est un raccourci énorme, mais vous allez même avoir dans la presse un titre d'article des curés qui veulent des carrés, ça va être un petit peu. Donc l'abstraction va parfois paraître moins dangereuse qu'une pratique, qu'un rouleau même, par exemple, ou la querelle de l'art sacré qui éclate au début des années 1950, éclate principalement à cause du Christ, du crucifix de Germaine Richier, qui est une figure qui paraît insultante à une partie des fidèles. On la retire de l'église d'Assis et voilà, donc là, elle est là-dessus. Effectivement, il va y avoir par exemple une mode de commande abstraite dans les églises après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, ça veut dire que ici, ce qui nous préoccupe, ces arts après la guerre, en ébullition, concerne l'ensemble en fait de la société. C'est ça qui est fascinant. Il y a ce regard porté avec des noms qui, bien sûr, en 1944-1945, ne font pas la une des journaux. Les préoccupations sont ailleurs. Mais il y a cette vivacité, cette création. Et déjà, au sortir de la guerre, il y a toute la réflexion de la culture. Pour entrer dans ce monde nouveau, ces arts sont là pour faire oublier aussi les horreurs du passé, bâtir le futur. Promenons-nous à Paris, direction des musées.
Promenons-nous dans Paris. Le soleil de cette année semble libérer au musée d'art moderne ces immenses fresques en relief, sculptées, abondantes, riches de sens, riches de vie, riches de passion. Janniot le Magnifique. Janniot qui, dans son petit atelier, percé par une bombe, révèle chaque jour que la santé, la force, la puissance sont les premières vertus d'un art éternel. Passons chez Gimond, qui attentivement, avec l'intelligence aiguë d'un chirurgien et la patience d'une mère, rend sensible sur le bronze ou la pierre la vie secrète et têtue que recèle un visage. Aux antipodes l'un de l'autre, le dionysiaque Janniot et le psychologue Gimond manifeste la vie multiple et éclatante de la sculpture française. La même révolution que Picasso imposa à la peinture, la voici en marche et déjà avancée dans la sculpture de Laurence. Ses recherches, qui remettent en question les bases mêmes du credo esthétique sur lesquelles vit notre civilisation depuis la Renaissance, atteignent aujourd'hui leur majorité. Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
Le journal des actualités françaises en novembre 1945 avec cette balade dans Paris à la rencontre de sculpteurs, Alfred Janiot, le dionysiaque, bon, présenté ainsi, ou alors Marcel Gimond, le psychologue. C'est intéressant de voir d'ailleurs comment en novembre 1945 il y a cela aussi, parce que c'est ça, étudier ce moment d'après-guerre, c'est de voir que le quotidien des gens n'est pas fait que des souvenirs de la guerre. C'est aussi la création du moment. C'est très, très vif.
Mais c'est exactement en fait ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'impression de nouveauté, de recréer en fait. C'est après-guerre, on parlait, l'extrait d'Hartung, Hartung évoque la question du vocabulaire. Donc vous allez avoir la guerre des mots par rapport à l'abstraction notamment, c'est-à-dire où est-ce qu'on se situe ? Est-ce qu'on est du côté d'abstraction lyrique, telle qu'elle était présentée par Georges Mathieu ? Est-ce qu'on est du côté d'un art informel ? Est-ce qu'on est du côté d'un art concret, avec des débats ? Alors toutes ces tendances sont d'ailleurs rassemblées aussi peuvent être rassemblées dans un salon. Il y a le Salon des réalités nouvelles qui est créé en 1946 et qui rassemble toutes ces tendances dans un premier temps. Après, il va y avoir petit départ. Mais vous allez avoir cette abstraction qui est qualifiée de chaude avec cette abstraction froide, donc une abstraction plus géométrique, peut-être presque imaginer du dedans, l'abstraction chaude, donc une gestualité, un rapport aux couleurs absolument aussi incroyable. Dans ces tendances, vous avez aussi la non-figuration. Donc il y a cette question du rapport au réel, et ce réel qui est pourtant tellement compliqué à l'époque dont on parle.
Est-ce qu'il y a une volonté de rompre avec ce qui se faisait avant, avec cette idée que ce monde d'avant a conduit aux horreurs de la guerre, maintenant il faut tout renverser. Alors, les arts ne sont pas exclus de cette réflexion, il faut tout réinventer, ce qui pourrait expliquer peut-être cette renaissance. C'est cette démarche-là ?
Alors, pas intégralement, puisqu'il y a justement cette volonté aussi, à côté de... On présente, on expose l'abstraction, on parle d'abstraction, c'est présent dans des articles, pas uniquement dans des revues de presse spécialisées, en fait. Vous avez même dans des quotidiens des présentations d'artistes abstraits, de débats pour ou contre l'abstraction, avec des artistes qui répondent, un Bonnard qui va expliquer que ce n'est pas un art adapté à notre culture, Matisse qui déclare, lui, que c'est un moyen. Donc il y a cette réflexion. Et parmi les critiques qui vont défendre, parce que derrière il y a aussi tout un ensemble de critiques et de stratégies de critiques aussi, vous avez une volonté aussi d'ancrer l'abstraction dans l'histoire.
C'est-à-dire
de dire, vous avez par exemple un article de Léon Degand dans lequel il explique que l'abstraction a toujours existé.
D'accord.
Pourquoi ne la critiquons pas ? Elle a toujours existé, c'est une évidence en fait. Donc ça, notamment, ça va être aussi très, très présent par rapport, comme je vous le disais, au renouveau d'art sacré, pour lesquels vous allez avoir des débats assez, assez houleux, en fait.
Et puis, il y a ces peintres, ces hommes, ces femmes qui étaient là avant. Parce qu'il y a ça aussi comme phénomène. Hein. Les gens n'apparaissent pas d'un seul coup au sortir de la guerre et se mettent à prendre des pinceaux en disant « ça y est, maintenant on va se mettre à la peinture ». Et ça fait longtemps qu'ils peignent, c'est le cas notamment de Picabia.
Depuis 50 ans, Francis Picabia peint par plaisir. Il expose en ce moment à la Galerie Drouin, place Vendôme, une partie du produit de ses 50 années de plaisir.
Vous faites de la peinture depuis 52 ans, je crois.
Au moins.
Au moins. Mmh. Vous avez donc dû changer de manière un certain nombre de fois depuis...
J'ai toujours fait de la peinture, les manières ont changé toutes seules, sans m'en apercevoir énormément.
Vous êtes passé de l'abstrait au figuratif quelquefois.
Je vais assez peindre figuratif, alors j'ai fait des choses abstraites, et après j'ai eu assez des choses abstraites et j'ai fait des choses figuratives.
Et puis
J'ai fait des superpositions, qu'on appelle superpositions.
Et vous avez introduit quelquefois le macaroni, je crois, et les nouilles même.
Ah oui, parce que j'avais pas de couleur. Alors comme je voulais faire un tableau tout de même, j'ai pas du macaroni, j'ai pris des cure-dents parce que je trouvais que ça allait aussi bien que les couleurs.
Et vous avez fait quoi avec ces cure-dents et ces macaronis ?
Bon, j'ai fait quelques tableaux, il y en a un qui est exposé chez Drouin, qui était chez Doucet, n'est-ce pas ? Ça représente ce qu'on appelle une nature morte, n'est-ce pas ? J'ai rendu la plus vivante possible en employant des macaronis et des cure-dents.
Oui.
Bah oui, voilà, pourquoi se casser la tête ? Francis Picabia, en 1949, qui est interviewé au moment où il est exposé à la galerie René Drouin. C'est toujours rigolo d'entendre ça. Bon, déjà, il y a cette distance par rapport à la création que j'aime beaucoup. Moi, je prenais des macaronis, ça allait beaucoup plus vite. Et puis, j'avais pas de couleur. Mais voilà, un personnage comme Picabia, lui, au moment de la libération, il est dans une longue continuité de création. C'est pas un renouveau.
Oui, mais tout comme Hartung, en fait, qui effectivement va retravailler à partir de ses pastels, qui va mettre avec une mise au carreau, qui va réaliser des peintures abstraites. Mais vous avez aussi un bouillonnement qui est. Vous parliez de renouveau. J'ai aussi le bouillonnement, parce que c'est un moment très particulier. Vous évoquiez la présence d'artistes étrangers aussi à Paris, et c'est vrai que l'après-guerre, vous allez avoir une concentration de personnalités qui vont en fait permettre cette dynamique. Alors ça va être d'un côté ça peut être les artistes américains qui peuvent bénéficier du GI Bill, donc c'est-à-dire que les soldats peuvent bénéficier d'une bourse en s'inscrivant aussi. Donc il y a des établissements qui proposent justement qui permettent de bénéficier de cette bourse. L'école des Beaux-Arts, l'Académie de Fernand Léger, il y a des artistes qui vont rester. Bon, ça, on le voit dès le début des années 50 dans le film Un Américain à Paris. Par exemple, vous avez Gene Kelly qui est un peintre qui reste à Paris. Donc c'est assez assez touchant.
Ah, l'école des Beaux-Arts, le bal des Quatre-Arts, enfin tout ça, ça fascine les États-Unis. Et vraiment, mais pendant le temps de l'occupation, pendant le temps de la guerre, il n'était pas pensable de venir à Paris pour, peut-on dire, reprendre une habitude que les artistes venus des États-Unis avaient dans les années 1920. Le grand tour du moment, c'était le passage à Paris. Ça s'arrête, il y a la crise déjà des années 30, et puis il y a la guerre, et là, on renoue en fait avec ça, avec d'autres personnes bien sûr, parce que les années ont passé.
Oui, alors ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'il y a plusieurs centres. Il n'y a pas que Paris. Certains vont à Berlin, à Londres. Donc ça, c'est important. C'est vrai que moi, j'ai particulièrement travaillé sur la scène parisienne, mais il faut aussi garder ça. Il y a aussi des artistes qui décident de repartir de Paris. Fissa, en fait, ou une artiste comme John Mitchell, va rester en France, mais pas à Paris. En fait, donc ça va être un choix. Elle va se rapprocher de Monet, justement, du côté de la Normandie. Elle va partir installer son atelier par là-bas, en fait. Et donc le fait est qu'il y a effectivement plusieurs raisons aussi pour venir à Paris. Il peut y avoir des raisons politique. Vous avez une artiste comme Judith Regel qui va venir de Hongrie en 1950, me semble-t-il. Après avoir vraiment raté toutes ses tentatives à plusieurs reprises, qui va s'enfuir. Et d'autres artistes qui vont aussi être dans le rêve de Paris, tester. D'autres qui, au contraire, se disent que justement, c'est un petit peu décalé Paris, c'est un petit peu moins. Donc, on va être tranquille là-bas par rapport aux États-Unis, notamment, des artistes américains. Vous voyez, un artiste comme Ellsworth Kelly, lui, reste à Paris. Il peut avoir sa pratique plus géométrique à un moment où, aux États-Unis, on va plus dans l'expressionnisme abstrait. Il est tranquille.
Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que il y a toujours ce regard que nous portons sur les arts venus des États-Unis, absolument fascinés en disant l'innovation est là-bas. Mais faut pas oublier qu'il y a cet autre regard des États-Unis sur les arts d'Europe et particulièrement Paris, parce que Paris, c'est un symbole, sans oublier que ces échanges date de la guerre, au sens où de nombreux artistes avaient quitté l'Europe, avaient quitté la France et s'étaient réfugiés aux États-Unis. Donc en fait, les liens existaient déjà, sauf que on va dire que ça se déplace. Les communautés d'artistes qui étaient réfugiés à New York, peuvent se retrouver pour aller boire un verre à Saint-Germain-des-Prés.
Oui, ben il y a la situation, elle est très contrastée et complexe aux États-Unis. Ça a été aussi pas mal, vraiment très très étudié par Éric de Chassey notamment, qui explique que qu'on a des positions différentes et des positions critiques différentes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le grand critique, donc Clement Greenberg, est un critique formaliste. Donc ça va être une approche bien singulière de ce qu'est l'abstraction, de ce qu'on place derrière. Sachant qu'aussi, en France, Et aux États-Unis, on n'a pas, on pense pas à la même chose quand on parle d'abstraction. Il y a peut-être une plus grande, quelque chose de plus élastique aussi aux États-Unis.
Dans la définition, vous voulez dire, oui.
Dans la définition même, oui. Ouais. C'est donc ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête. Et le fait est que à Paris, oui, les lieux. Moi, c'est une question qui m'a beaucoup intéressée. C'est que certes, on parle beaucoup de d'artistes qui vont rester dans leur dans leur groupe, en fait, par rapport à leur nationalité, leur pays d'origine. Mais en fait, il y a beaucoup de lieux dans lesquels des artistes se croisent, se rencontrent. Donc les cafés, vous avez raison. On va au Flore, on va les lieux d'enseignement. Qui sont des espaces aussi bouillonnants dans lesquels les artistes se retrouvent, donc l'école des beaux-arts certes, mais il y a beaucoup d'académies privées dans lesquelles les artistes viennent. Donc vous avez à la fois de tout jeunes artistes en formation, mais aussi des artistes qui sont plus aguerris et qui reviennent. Donc vous avez l'Académie La Grande Chaumière, l'Académie Lotte, Fernand Léger. Il y en a qui vont aux Beaux-Arts à un moment de la journée et finissent la fin de journée à aller dessiner dans une académie privée. Donc il y a des tas de lieux de circulation, en fait.
Oui, dans ce monde qui... Et c'est assez fascinant, il faut le dire, hein, celui de l'après-guerre, celui où tout est à reconstruire. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. À la Libération, les arts sont en ébullition avec cette notion de fête, mais sans cesse teintée du moment, du contexte, de la découverte de toutes ces horreurs. C'est un peu ce qu'on ressent, alors, chez Bourvil, d'une part, mais chez Juliette Gréco aussi, à la recherche de ce petit bal perdu.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les graves, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, 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 je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les graves, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait. Qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.
C'était bien le petit bal perdu, Juliette Gréco, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. À la Libération, les arts sont en ébullition. Fanny Drujon, nous avons beaucoup parlé d'abstraction. Ici, nous avons un peu de musette. C'est abstrait aussi parfois, la musette, mais c'est toujours un plaisir. La musique associée à cette période-là et le jazz. On peut faire un lien entre l'abstraction d'après-guerre et puis ce goût pour le jazz?
Mais il y a beaucoup d'artistes qui étaient tout simplement passionnés aussi, et même des artistes qui faisaient le lien. On peut même remonter avant-garde. Pour Mondrian, le jazz, c'était la musique qui pouvait correspondre, le type de musique qui pouvait correspondre à sa modernité plastique également. Donc, et après-guerre, oui, il y a une vraie à la fois fréquentation, et des artistes aussi qui survivent en Gemont aussi à côté de leur pratique plastique. Je pense à un artiste comme le Sud-Africain Sekoto qui vivait de sa musique en fait principalement,
avec ici un moment d'américanisation de notre histoire. Et avec nous, Ludovic Tourdès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Genève. Américanisation, une histoire mondiale du 18e siècle au 21e siècle, donc c'est très large. Hein. C'est souvent quelque chose qui est associé à l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est l'influence des États-Unis dans le champ de la culture. C'est une réalité, on peut le dire ainsi ?
C'est une réalité, et même une réalité lourde, tout au long du XXe siècle au moins. Alors ça commence avant, effectivement, mais ça se fait vraiment sentir à partir de la Première Guerre mondiale et encore plus à partir de la Seconde.
Avec l'idée donc qu'on est plutôt dans la reprise d'un phénomène qui existait déjà avant-guerre, mais un phénomène qui s'accentue. C'est pas une nouveauté non plus, sauf que là l'ampleur est beaucoup plus large, mais ça existait déjà avant-guerre.
Ah oui, tout à fait. Vraiment, le premier grand moment d'internationalisation de la culture américaine, c'est l'après-Première Guerre mondiale.
Voilà, c'est ça, hein, l'après-Première Guerre mondiale, et le jazz existait déjà avant-guerre. Quel est l'état du jazz en France pendant la Seconde Guerre mondiale ? Est-ce que c'est une musique que l'on peut écouter facilement ?
Oui, alors, en fait, le jazz pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation, n'a jamais été interdit, hein, contrairement à ce qu'une légende laisse parfois entendre. Et même, c'est un moment où le jazz commence à avoir pas mal de succès. En fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était resté un phénomène largement parisien. On note une première extension pendant l'occupation, avec évidemment toutes les contraintes qui sont celles de l'occupation, mais c'est tout à fait clair, notamment quand on regarde le développement des associations d'amateurs de jazz, qui étaient très très peu nombreuses avant les fameux hot clubs, qui étaient très très peu nombreuses avant 1939 et qui connaissent un premier moment d'extension pendant la guerre.
Ludovic Tourdès, il va falloir nous préciser ce qu'est un hot club pour pas qu'il n'y ait de confusion.
Alors, un hot club, c'est une association d'amateurs de jazz qui se réunissent pour écouter du jazz ensemble. Hein. À l'époque, on écoute des disques ensemble, en groupe, et qui se réunit également aussi pour organiser des concerts, pour organiser des conférences. Et pourquoi hot club ? Parce qu'à l'époque, il s'agit de défendre le jazz hot, le vrai jazz improvisé, celui de la Nouvelle-Orléans et des musiciens qui ont suivi, contre le jazz straight, qui est supposé être un jazz affadi un petit peu commercial et qui imite la musique classique.
Voilà, d'accord. Il y a des débats
très forts. Alors, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'on peut parler vraiment d'une intégration du jazz dans le paysage culturel français, c'est qu'il y a des débats extrêmement animés entre des partisans de différents types de jazz. On ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais ce que veulent dire ces débats, c'est que le jazz s'intègre très profondément dans le paysage culturel français.
Oui, parce que c'est ça hein, qui est intéressant à voir, c'est comment un phénomène que l'on présente souvent venu de l'extérieur s'intègre, mais c'est pas comme ça qu'on doit le saisir. C'est cet apport et cette transformation. C'est-à-dire qu'on va choisir ce qui plaît le plus à ce moment-là. C'est pas de l'appropriation, c'est aussi de la création, ou ce sont des artistes qui viennent des États-Unis.
Alors ça, c'est un phénomène tout à fait passionnant, c'est que effectivement, bon, le jazz vient de l'extérieur, vient des États-Unis bien entendu, mais il est mélangé avec toute une série de courants musicaux français entre guillemets, c'est-à-dire qui sont en France, mais qui peuvent venir eux-mêmes d'ailleurs. Hein, quand on regarde par exemple la première forme de jazz français qui est jouée par le fameux quintet du Hot Club de France avec Django Reinhardt et Stéphane Grappelli en particulier. Ce sont des gens qui ont des backgrounds musicaux très divers, qui utilisent le jazz, mais qui utilisent aussi la musique tzigane, la musique italienne, etc. Donc tout ça se passe en France, avec finalement un mélange de plein d'éléments musicaux qui viennent de différents éléments, de différents endroits, dont le jazz n'est qu'un élément parmi d'autres.
Voilà, et puis alors, ces débats, ils ont lieu partout, bien sûr, on l'imagine, mais il y a un lieu particulier dans cette histoire-là, c'est Saint-Germain-des-Prés.
Connaissez-vous le quartier de Saint-Germain-des-Prés?
Saint-Germain-des-Prés, les vestiges de la plus ancienne abbaye de Paris, précieux reste de l'architecture religieuse du XIe siècle. Un quartier provincial où l'on peut, depuis la romantique petite place de Fürstenberg, jeter un coup d'œil sur l'atelier où Delacroix bouleversa la peinture de son temps. Et d'ailleurs, ce sont bien ses souvenirs d'un quartier où elle a grandi que Corinne Calvé, retour d'Hollywood, a voulu montrer à son mari, le neveu de Louis Bromfield.
Vous croyez? Oh, vous savez, Saint-Germain a beaucoup changé entre-temps. Le Flore, par exemple, un café. Non, un temple, avec ses servantes et ses pontifes. Leur apostolat implique le renoncement à toute pompe vestimentaire et l'humilité la plus totale dans le choix des véhicules.
Mais n'est-ce pas là une forme moderne de la mortification, peut-être?
D'ailleurs, l'exemple vient de haut. De Gréco, la première vestale d'un culte dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont peut-être involontairement déchaîné les manifestations qui se réclament de leur philosophie de l'existence.
Ah oui, l'existentialisme.
L'existentialisme, qu'est-ce que vous en savez, vous autres?
Saint-Germain-des-Prés présenté en 1951, et oui, Les mains sales de Jean-Paul Sartre, c'est 1948, et Le deuxième siècle de Simone de Beauvoir, c'est 1949. On est vraiment ici dans un carrefour, en fait, de la création. On a parlé des arts, de la peinture, on parle de la musique, du jazz, il y a la littérature, la pensée, la philosophie. Le mot ébullition, c'est pas un mot galvaudé pour parler de cette période quand ça concerne les arts?
Ah non, c'est pas un mot galvaudé du tout. C'est vrai. Alors, Saint-Germain-des-Prés, c'est à la fois un symbole avec tout ce que ça comporte d'exagération éventuellement, mais c'est, je dirais, un écosystème social, littéraire, artistique, musical, pictural, qui symbolise Paris dans son ensemble et l'idée que Paris, à la Libération, essaye de retrouver sa centralité culturelle, artistique, qui était la sienne avant 1939.
Fanny Drujon, c'est ça aussi qui attire les artistes venus de l'étranger?
Oui, sachant que là, je pensais aussi à l'imagerie, en fait. J'évoquais un Américain à Paris, donc ce film, quelques années après, vous avez Funny Face, un drôle de frimousse qui est tourné, où on arrive justement dans ces caves, où en même temps, il y a aussi tout un ensemble de réflexions, de petits clins d'œil à ce qui se passe aussi sur la scène artistique. Donc cette ébullition, cette recherche qui est présente. Et aussi, alors je rebondis sur ce que vous disiez également à propos de ce qu'est un bon jazz ou pas. Donc la réflexion sur ce qu'est aussi, alors je vais pas dire une bonne peinture, un bon art ou pas, mais sur ce que doit être. Par exemple, l'abstraction. Vous avez je parlais des ateliers, des académies que l'académie d'André Lhote, par exemple, ou les Fernand Léger qui ne prenaient pas l'abstraction, mais des artistes qui étaient très ouverts. Et vous avez aussi, dans ces années-là, l'atelier d'art abstrait avec une volonté de présenter des conférences. Il y avait toute une partie aussi technique. Donc, comment, dans ces querelles d'école, où se situer, comment présenter, sachant que les gens se croisaient, évidemment.
Oui, parce que ces conférences-là que vous évoquez, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi de réfléchir à la limite, la portée de ce que nous évoquons. Parce que est-ce qu'il ne faut pas une énorme loupe pour voir cette ébullition dans un petit quartier à Saint-Germain-des-Prés? Ou alors est-ce que cette ébullition, elle est générale? Est-ce qu'on va la retrouver partout? Et il y a toujours vraiment cette pleine conscience que nous avons. Hein. Les gens, ils ont d'autres soucis à ce moment-là. C'est la reconstruction, il y a encore le rationnement, c'est encore difficile. Mais on lit la presse. Est-ce que ça apparaît dans la presse, toutes ces questions-là?
Ah oui, ça apparaît. Et alors, c'est encore une fois, on est effectivement un petit microcosme sur Saint-Germain, mais qui symbolise encore une fois ce redémarrage de la vie culturelle, artistique, intellectuelle, qui est tout à fait réel. Alors, avec toutes les contraintes que vous avez évoquées, le rationnement, l'électricité qui manque, le chauffage qui est pas là, donc pour les salles, etc. Donc c'est très compliqué, sans parler des moyens de transport et des routes qui empêchent d'aller d'un endroit à un autre. Donc il y a toutes ces contraintes, mais au fond, la vie culturelle redémarre vite. Alors Saint-Germain en est un des aspects, mais bon, il y en a d'autres. Il y a le Festival de Cannes en 1946, il y a le Festival d'Avignon dès 1947. Donc finalement, ça redémarre assez vite. Et alors Saint-Germain-des-Prés symbolise la encore une fois cette effervescence retrouvée, même s'il ne faut pas la limiter au petit microcosme germano-pratin.
Voilà, il ne faut pas limiter à Saint-Germain-des-Prés, il ne faut pas le limiter non plus à une cave de Saint-Germain-des-Prés.
Absolument.
Voici l'animateur du lieu, l'âme damnée des lanceurs de mode, le romancier scandaleux de J'irai cracher sur vos tombes, j'ai nommé M. Boris Vian.
Tout ce que je fais, je le fais en toute innocence, que les gens sont souvent très surpris, évidemment. Je ne me rends pas
compte. Alors, les romans, scandale.
Ah ben, vous comprenez, pour moi, ça n'a rien de scandaleux. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ça en toute innocence. Parce que vraiment, quand on parle des choses simplement et sans y attacher d'importance, on ne voit pas pourquoi les gens se choquent. S'ils se choquent, c'est vraiment qu'ils ont une mauvaise conscience, à mon avis.
Tandis que la vôtre est d'une limpidité.
Oh, d'une limpidité parfaite.
À nul autre pareil.
Vous savez, on n'est coupable que quand on se sent coupable.
Même pas de snobisme.
Non, non.
Pourquoi avez-vous choisi Saint-Germain-des-Prés pour l'exercice musical? Parce que je crois que vous aimez sincèrement et profondément et passionnément la musique de jazz.
Oui, ça c'est une de mes manies, mais vous savez, il y a guère que cet endroit-là où on puisse faire de la musique de jazz et conserver un public.
Mais entre nous, il n'y a pas parmi votre public des gens qui sont là, mon Dieu, pour faire foule et parce que c'est la mode?
Si, il y a beaucoup de gens qui sont là parce que c'est la mode, il y en a qui viennent voir ce que c'est. Qui ne reviennent pas, il y en a qui viennent voir ce que c'est qui reviennent, et puis nous avons énormément d'Américains.
Et pourquoi était-il nécessaire de s'installer dans une cave?
Je crois que ça date de l'occupation, ça, des bombardements. Vous savez, on a tellement pris l'habitude de descendre la nuit dans des caves que...
Mais pendant l'occupation, on ne descendait pas dans les caves. Quand on était bombardés, les Parisiens restaient sur le pas de la porte.
Oh, pas tellement, voilà, pas tellement. Non, non, au fond, ils étaient ravis de descendre dans des caves, c'était une diversion. Et puis, alors... ils faisaient connaissance avec leurs caves, on ne connaît jamais ces caves.
On ne connaît jamais ces caves. Nous étions en 1948 quand Boris Vian s'exprimait. J'irai cracher sur vos tombes, le roman, c'est 1946. Hein. Donc on est vraiment dans ce monde-là d'après-guerre. Toujours une réflexion que l'on peut avoir après avoir connu l'horreur. Est-ce qu'il y a une volonté par les arts de tourner la page? Est-ce que le curseur n'est pas poussé un peu loin, aller dans l'audace, dans la volonté de faire autrement? Parce qu'on veut aller ailleurs, quoi.
Alors, je crois qu'il y a une volonté de redémarrer, effectivement. Alors, d'oublier, je ne sais pas, mais en tout cas, de redémarrer, de tourner la page. Et c'est certainement un des moteurs du succès du jazz, parce que c'est quelque chose qui apparaît comme nouveau, comme moderne, qui vient de l'extérieur, qui est associé aussi, évidemment, au rôle des États-Unis, des Américains. Donc, c'est quelque chose de très fort, tout à fait.
New Orleans sur scène, c'est l'histoire du jazz en France de Victor Ness, dont vous êtes l'auteur. C'est l'histoire du jazz là en France. Vous la faites débuter en 1917 et on comprend tout à fait la logique, hein, l'arrivée des Américains pendant la Première Guerre mondiale avec ce moment qui est là. Moi, ce qui me fascine, ce sont tous ces débats qu'il y a, parce que on parle beaucoup du jazz, mais il y a tant et tant de voix possibles à adopter. Il y a du bebop aussi qui est en discussion.
Ah oui, bah précisément le bebop c'est la grande nouveauté de l'après-guerre, puisque en fait il est né aux États-Unis pendant la guerre, et donc le milieu des amateurs de jazz français a été complètement coupé forcément de ce qui se passait aux États-Unis pendant les 4 années d'occupation, et je dirais il reçoit le bebop de plein fouet à partir de 1946-47, d'abord avec les premiers enregistrements, et puis à partir de 1948 avec des musiciens qui arrivent, et je pense en particulier à Dizzy Gillespie en février 1948 qui jouait avec son grand orchestre à Paris. Et ça, évidemment, ça provoque une fracture importante dans le milieu des amateurs de jazz, entre ceux qui estiment que le vrai jazz, c'était le jazz classique, celui de la Nouvelle-Orléans, puis celui des big bands des années 30, et puis ceux qui considèrent que il faut aussi regarder ce qui se passe actuellement, et notamment le jazz dit moderne, c'est-à-dire le bebop.
En 1948, il y en a un autre qui arrive à Paris, c'est Louis Armstrong.
Le DC-4 Air France, qui amène de New York Louis Armstrong, Mez Mezrove et leurs musiciens, vient de se poser sur l'air de l'aérodrome d'Orly, où il souffle un vent glacé. C'est une véritable grappe humaine de journalistes, de cinéastes, de photographes, qui a littéralement pris d'assaut l'appareil pour voir apparaître Louis Armstrong. Et au milieu de cette grappe humaine se trouve le trompette français Aimé Barelli, qui avec son orchestre est venu accueillir le maître de Harlem et va le saluer tout à l'heure en musique dès qu'il sortira de la carlingue. La petite échelle vient d'être approchée de l'avion et voici Louis Armstrong.
Hello, friends. It's always a pleasure to be back. Just happy to be back after so many years. Wonderful.
So many years ago?
Oh, since 1935. It's been beautiful.
Louis Armstrong, would you sing a few words of the flat foot flogey again?
Oh, flat foot flogey with a flower.
flat blood bluesy with a fly, fly. A flat blood bluesy with a fly, fly. Fly, 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 fly. Bang, 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 bang.
Yada.
Bang, 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 bang.
Yada.
Bang, 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 bang.
Yada.
Badoo, badoo, down, down. Flat foot bluesy.
Yada.
Lose that fluesy.
Yada.
Big foot bluesy.
Yada.
Badoo, badoo, down, down.
Bum 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 driara, bum 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 driara, bum 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 driara, da 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 da.
Flatfoot Fluji with Floyd, 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 Floyd,
Fluji,
Flatfoot,
Flatfoot,
Slewfoot,
Fluji,
Sugarfoot,
Flatfoot,
Cushfoot,
Fluji,
Wingfoot, Bigfoot, and Satchelfoot.
Je ne sais pas combien d'auditeurs, d'auditrices se sont dit, ça fait hyper longtemps que je n'avais pas écouté Louis Armstrong. Il faut absolument que je réécoute parce que c'est formidable. Ludovic Tournais, ce sont des choses, rien que quand on entend ici, on a les images qui nous arrivent en tête et on a une époque.
Absolument, mais il faut absolument réécouter Louis Armstrong. C'est un géant du jazz, toutes catégories confondues, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, c'est vrai qu'on voit vraiment, et on imagine ce qu'ont pu ressentir les auditeurs et puis les spectateurs qui ont été le voir en 1948. C'était vraiment effectivement quelque chose qui... La réouverture après ces années de guerre et de chape de plomb. Et alors, ce qui est très intéressant avec Louis Armstrong, c'est qu'il va participer au Festival de Nice en février 1948, ce qui montre bien que, voilà, on parlait de Saint-Germain-des-Prés, mais finalement, la vie culturelle, elle reprend sur l'ensemble du territoire français. Ça, je crois que c'est vraiment très, très important. Et de fait, le Festival de Nice, c'est le premier grand festival de jazz, le premier festival de jazz tout court, pratiquement dans le monde, hein. Parce que finalement, les premiers festivals de jazz aux États-Unis ont été organisés bien plus tard, hein, le festival de Newport en particulier. Mais donc voilà, on voit bien le dynamisme qu'il y a après la guerre, en France en particulier.
Et de la création aussi, un nom a déjà été cité, c'est Django Reinhardt. Parce qu'il y a ici, et c'était vraiment important pour réfléchir après à comment les créations françaises s'exportent, eh bien, ce va-et-vient. Mais en France, eh bien, tout ce qu'on entend venu de l'extérieur et ce qui existe déjà produit de nouvelles créations.
Absolument. Il y a effectivement Django Reinhardt avec le quintet du Yacht Club de France. Et puis, après-guerre, il va y avoir une nouvelle génération de musiciens qui vont s'inspirer énormément des musiciens de jazz américains qui vont venir en nombre en France. Ils sont pratiquement tous venus, hein. Si on fait la liste, elle est vraiment très, très longue. Et puis, cette nouvelle génération de musiciens va d'abord s'inspirer d'eux et puis ensuite explorer ses propres voix, hein. Je pense en particulier, par exemple, à quelqu'un comme Martial Solal, hein, qui est vraiment un des grands musiciens de jazz français et un des grands musiciens du jazz tout court de la deuxième partie du XXe siècle et qui a vraiment forgé son parcours dans l'effervescence culturelle de ce Paris d'après-guerre.
Voilà, ce Paris d'après-guerre, ça, c'est bien sûr, c'est l'image, hein, c'est presque le stéréotype et on le disait, cette histoire-là, ce n'est pas seulement l'histoire dans une cave à Saint-Germain-des-Prés. Vous venez de le dire, ce festival du jazz à Nice, c'est vraiment dans la continuité de ce mouvement parce que c'est de partout que l'on observe cette effervescence.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le premier festival international du jazz, organisé par la ville de Nice, est ouvert. Voici d'abord Rex Stewart. Ces orchestres qui chaque jour feront danser les hivernants seront retransmis tous les soirs par la radiodiffusion française et relayés par les principales stations de radiodiffusion d'Europe, par la British Broadcasting Corporation, par Radio Monte Carlo, par la radiodiffusion belge, Radio Genève, Radio Lausanne, Radio Monte Ceneri, la radio hongroise, la radio tchécoslovaque, la radio suédoise, finlandaise, et enfin par la Ravag et le Rotweiss à Vienne.
Nous étions en septembre 1948. Nous parlons des arts. Au sortir de la guerre, on ne peut pas tout évoquer. Bien sûr, il y a tant et tant de noms à donner. Beaucoup déjà ont été cités, mais il y a les grands noms qu'on connaît. Picasso, il y a ces grandes expositions d'après-guerre. Il y a toute cette effervescence qu'on ne cesse de répéter, mais que l'on pourrait aussi appliquer en littérature. Et ils sont nombreux, nombreuses à écrire à ce moment-là. Est-ce qu'on voit des grandes lignes directrices s'écrire ici? Fanny Drujon, vous nous disiez que parmi les débats, vous voyez, il y a cette question entre l'abstraction et puis un retour à quelque chose d'un peu plus rassurant peut-être, une opposition abstraction-réalisme. Est-ce que ça vaut pour l'ensemble des arts que l'on évoque? Il y a comme un doute.
Là encore une fois, j'ai du mal à répondre de manière tranchée, j'avoue.
Mais tant mieux, tant mieux.
Mais sachant qu'il y a aussi un autre élément qui est aussi important, c'est les surréalistes. On est aussi à un moment compliqué. Le rapport à l'abstraction n'est pas évident, en fait, avec un passage, je pense à une artiste, notamment Marcel Lubchansky, qui était une artiste proche des surréalistes, qui partit aussi dans une veine plus abstraite, parfois acceptée, parfois rejetée, avec aussi des différences de personnalité. C'est-à-dire, je vous ai parlé, par exemple, de Georges Mathieu, qui était une personnalité importante à cette époque-là, à plusieurs titres. Déjà aussi, il avait organisé une exposition dans laquelle étaient présentées ses œuvres, les œuvres de Picabia, les œuvres d'Artung, les œuvres de Wolst, et aussi avec un artiste qui s'occupait aussi d'une revue qui était distribuée sur les paquebots, les tours transatlantiques. Donc il avait en ce sens un rôle aussi à la fois de passeur et d'intermédiaire. Et lui était en vive opposition évidemment avec Breton. Enfin, évidemment, c'est une scène assez houleuse. Et je rebondis aussi par rapport à la question que vous posiez sur la question des débats à regarder avec une loupe énorme. Ce qui est intéressant, et je rebondis notamment sur la question de renouveau de l'art sacré, ce qui est fascinant, c'est que ceux qu'on présente comme les premiers vitraux abstraits sur la scène artistique française sont des vitraux d'Alfred Manessier qui ont été réalisés dans le Doubs, pas très loin de Besançon, donc les vitraux des Brézeux. Et il y a un échange des archives justement avec le curé de la paroisse qui était et le chanoine Leder qui était un peu plus introduit dans le monde artistique parisien. Et dans cet échange, on se rend compte qu'en fait, cet abbé Comment était au courant des débats sur l'abstraction, parce que justement dans cette lettre, on apprend que déjà il voulait bien une œuvre abstraite, des vitraux abstraits, mais plutôt une abstraction chaude, pas une abstraction froide. Donc c'est dire qu'aussi il y avait une diffusion de ces débats non négligeables.
Et on vit la même chose pour le jazz.
Absolument, là il y a vraiment cette division entre les partisans du jazz moderne, du bebop, et puis ceux du jazz traditionnel, avec des batailles à coups d'articles, à coups de polémiques, à coups d'organisation de concerts concurrents aussi, parce que on a parlé du Festival de Nice tout à l'heure, Festival de Nice qui est organisé, dont la direction artistique est confiée à Hugues Panassier, qui est disons le tenant du jazz traditionnel, auquel les tenants du jazz moderne, Charles Delaunay en tête, qui entre parenthèses est le fils des peintres peintre Robert et Sonia Delaunay. Donc là, le lien avec la peinture est très net. Et donc Delaunay organise un autre festival à Paris où il y a surtout des musiciens de jazz moderne. Donc on voit bien ces débats traversent vraiment tous les milieux artistiques. Dans le domaine de la musique, c'est pareil. L'après 1945, c'est le moment où on a René Leibovitz avec le dodécaphonisme et puis surtout Pierre Boulez après avec les concerts du domaine musical sur le sérialisme intégral qui s'oppose à la musique classique. Donc cette fracture, elle traverse, je dirais, pratiquement tous les milieux artistiques. Et elle va être, je dirais, dramatisée par l'enjeu de guerre froide qui va, disons, politiser d'une certaine façon l'opposition entre ces factions esthétiques qui va parfois prendre un tour politique entre les conservateurs et puis les progressistes.
Oui, parce que au sortir de la guerre, et alors là je dis vraiment au lendemain de la libération, cette fin de l'année 1944-1945, la question politique est là, mais comme une évidence, avec cette volonté d'union et un rejet global du nazisme. Et d'ailleurs, c'est le moment où des artistes qui ont œuvré pendant la guerre ont tendance à disparaître un petit peu. Des acteurs, des actrices qu'on ne voit plus à l'écran et des écrivains qui se font beaucoup plus discrets avant de revenir par la suite. Mais il y a cette période-là. Et puis, pour que tout cela fonctionne, faut malgré tout des réseaux. On fait pas du jazz comme ça. Faut, vous nous l'avez dit, se déplacer. On n'expose pas des œuvres comme ça. Il faut des galeries. Il y a tous ces réseaux-là aussi qui se remettent peu à peu en place au lendemain de la guerre, notamment pour les artistes. Est-ce qu'il y a un lien, d'ailleurs, jusqu'aux États-Unis, au sens où peut être possible d'exporter peut-être ces créations?
Oui, il y a effectivement aussi des galeristes aux États-Unis. Il va y avoir des expositions alors assez étonnantes côté États-Unis. Vous allez avoir par exemple une exposition des expressionnistes abstraits avec un petit peu l'impression de donner un parrain à chaque fois pour un artiste américain. Roscoe, par exemple, est associé à Nicolas de Staël. Et côté France, il va y avoir aussi une présentation, mais là encore une fois, la question des critiques est aussi comme pour la musique, est aussi très importante. C'est-à-dire, vous allez avoir une parole qui va être présentée, qui va diffuser des messages, des assertions parfois. Michel Ragon, Charles Estienne, vont aussi contribuer à ces querelles d'école. Clément Greenberg, dont je parlais, qui déclare carrément à dire que l'abstraction américaine est beaucoup plus intéressante que l'abstraction française. Mais oui, mais je réponds oui. C'est bien simple.
Et puis avec l'importance aussi à accorder au phénomène de transfert culturel entre une culture qui est présentée parfois comme élitiste et puis une culture qui est populaire. Le jazz, par exemple, ça infuse dans l'ensemble de la société. C'est pas juste un petit monde. Et ça, on va le retrouver partout.
Absolument. Pour ce qui concerne le jazz, précisément, l'après-guerre, c'est le moment où le jazz, qui était une musique assez élitiste, connaît un début de popularisation, qui sort des caves précisément pour aller dans des festivals, dans des salles plus grandes, des concerts, etc. Et cette popularisation relative, parce que le jazz reste quand même une musique élitiste, cette popularisation, elle sera symbolisée à partir de la fin des années 1940 par le succès de Sidney Bechet, qui est arrivé en 1949 au Festival de Paris et qui reste en France et qui fait une formidable seconde carrière en devenant une des premières grandes vedettes de la scène des années 50.
Parce que c'est ce véritable plaisir avec Sidney Bechet et surtout ce plaisir de se plonger dans ce moment-là avec beaucoup de gens que nous avons rencontrés grâce à vous deux aujourd'hui et quels artistes. Merci beaucoup Fanny Drujon. Je rappelle Passage à Paris, artiste étranger à Paris de la fin du 19e siècle à nos jours. Et merci Ludovic Tournès avec cette américanisation du monde et cette histoire du jazz. Merci vivement à tous les deux. Petite promenade aux Champs-Élysées avec Sidney Bechet, évidemment, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Chloé Rouillon et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire est à retrouver, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.